Libres de demain seront consacrés aux confessions. Il suffit de vous rendre, j'imagine, dans les bureaux des différents prêtres. Alors, ma sœur, mesdemoiselles, mesdames, la grâce de Dieu ne vous est pas donnée pour mener une petite vie tranquille et douillette et confortable. La grâce nous est donnée pour combattre. La vie, en effet, n'est pas un long fleuve tranquille, comme dirait quelqu'un. Et l'Église ne cesse, à travers les textes de l'Écriture sainte, de sa vie liturgique, de sa vie sacramentelle, de multiplier l'emploi d'images que vous allez voir fortes, éloquentes et combatives. La vie n'est pas un long fleuve tranquille où on se la coule douce, comme on dit, où tout s'écoule et écroule. Non, la vie spirituelle est une course, une lutte, un combat, une conquête, la conquête du ciel. Et c'est donc de ce combat spirituel dont je vais ce soir vous entretenir. Combat, ça veut dire, eh bien, longue haleine, il va falloir, jour après jour, savoir lutter, se reprendre malgré les chutes, triompher des épreuves et remporter la victoire finale. C'est donc un combat de longue haleine, je disais. Et pour vous aider à bien vous en convaincre, si des fois il y a besoin de vous en convaincre, eh bien je voudrais d'abord, dans une première partie, partir de cet apôtre géant du combat spirituel et physique aussi, Saint Paul. La force d'un Saint Paul, c'est un peu ça là, le titre de ma partie, avant de remonter à celui qui inspire cette force, cet esprit de force qui est l'Esprit Saint. Nous verrons que la force d'un Saint Paul, la force de tous les saints, ce n'est rien d'autre que la force de l'Esprit Saint, qui nous est donnée par la grâce à de rebours pour combattre. Et nous verrons comment. Donc d'abord, nous allons essayer rapidement de, non pas dresser un portrait, mais de tirer quelques leçons des enseignements de Saint Paul concernant le combat. Vous savez que Saint Paul est représenté à Saint-Paul hors les murs, sur la voie d'Ostie, là où il a souffert le martyr. Il est représenté dans une immense statue majestueuse avec un glaive. Alors bien sûr, c'est le glaive, puisqu'il est mort décapité. Mais quand on pense à Saint-Paul, quand on connaît, qu'on fréquente Saint-Paul, on pense évidemment au glaive de la foi qu'il a manié dans tous les sens pour trancher, porter l'estocade, couper, retrancher, se défendre, attaquer, etc. Alors, je vais rapidement prendre quelques passages bien connus de Saint Paul, où on voit son tempérament de feu, de flamme, exhorter ses disciples à combattre. Premier exemple, premier texte, qui est très connu, c'est celui à Timothée. Donc c'est là, c'est un évêque qu'il s'adresse. Voyez, il reprend un de ses disciples qu'il a fait évêque. Voyez, Padre Pio, on a vu cette apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui se plaint de ses prêtres tièdes sans doute. Eh bien, Saint Paul, lui, dès le début de l'Église, reprenait un évêque. Pour toi, homme de Dieu, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la douceur. Voyez, toutes les vertus qui te font défaut, lui dit-il. Combat le bon combat de la foi. Conquiers la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'en prie devant Dieu, hein, il le conjure, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant le Christ Jésus qui sous Ponce Pilate a rendu son beau témoignage, garde le commandement sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que si nous avons à combattre pour la foi, à mener ce bon combat de la foi, c'est à la suite de notre chef, qui a le premier rendu le beau témoignage, il dit, hein, de la foi, sous Ponce Pilate, Jésus-Christ, par sa mort en croix. Le Christ a combattu, nous disons trois fois chaque jour l'Angélus, où nous demandons à être conduits par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Nous n'atteindrons pas la gloire de la résurrection sans passer par la passion et la croix de Jésus. C'est logique. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et si notre chef, la tête de pont, j'ai envie de dire, au ciel, est passé par là, eh bien nous, ses membres, ayons à rougir de ne pas savoir suffisamment porter les croix, les épreuves, à la suite d'un maître qui nous a qui nous a donné l'exemple, qui nous a rendu ce beau témoignage, témoin, martyr, hein, c'est la même racine. Donc, un petit texte, mais très riche, non seulement quant aux vertus à pratiquer, certainement, mais déjà quant à toute la philosophie, hein, tout l'état d'esprit avec lequel il faut aborder l'esprit combatif, l'esprit de croisade, l'esprit chrétien, qui est un esprit de combat. Dans l'Épître aux Hébreux, deuxième texte, l'Épître aux Hébreux est un beau texte à lire, parce que donc Saint Paul s'adresse à des Hébreux, donc des gens de sa race, de sa génération, qui justement ont beaucoup à souffrir, et qui surtout souffrent d'un ver rongeur, si vous voulez, qu'on appelle le découragement, le défaitisme. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux est très très intéressante. Donc, ce sont des Juifs convertis au christianisme et qui ont beaucoup à lutter. Songez un petit peu combien cela a été dur, difficile pour des bons Juifs pratiquants de l'époque d'abandonner la loi de Moïse pour passer à la loi parfaite de l'Évangile, de la liberté. Ils se trouvaient ipso facto excommuniés, exclus des synagogues, traités regardés de travers par leurs parents, puisqu'ils étaient vraiment les premiers chrétiens, qui les accusaient de rentrer dans une secte, déjà, et puis qui ne ménageaient pas les embûches pour essayer, si vous voulez, à l'époque, au premier siècle, un juif qui se faisait chrétien, c'était un juif qui tournait mal, de leur point de vue. Et donc, songez à tout ce qu'ils avaient à souffrir de la part de leurs congénères. Songe également, il devait quitter, s'extraire du milieu mosaïque juif ancien, de cette loi qui était devenue mortifère. Mais qu'est-ce qu'il trouvait autour d'eux? Le paganisme, un environnement païen où c'était les idoles partout, la superstition, et puis l'immoralité régnante, parce que c'était pas non plus très agréable de vivre au premier siècle. On sait très bien qu'il y avait toutes sortes de pratiques, selon les milieux bien sûr, mais il y avait tout n'était pas rose. Quoi. Bon. Songez également que le sang coulait. C'est le début de trois siècles de persécution, quasiment sans solution de continuité, et que un Saint-Étienne, par exemple, a été lapidé donc lui par ses frères. Mais elle se répand partout. Et il vous suffit de lire. Alors, quand vous aurez lu l'Épître aux Hébreux, vous lirez les Actes des Apôtres, qui est un récit passionnant des tribulations de Saint Paul, qui traverse l'Asie Mineure, qui passe en Grèce, qui revient à Chypre, qui repart à Rome, qui échoue en Crète. Donc vous connaissez l'Épître aux Corinthiens où il raconte tout ce par quoi il est passé. Mais lisez chapitre après chapitre les Actes des Apôtres. Donc la conversion de Saint Paul, c'est vers chapitre 9, par là. Donc ensuite, eh bien, il va dans une ville. Tout de suite, les Juifs, c'est eux, les premiers, les plus zélés, lui tendent des embûches. Alors, par exemple, au chapitre 17, vous avez... donc il vient d'arriver dans une petite ville... de Thessalonique et ils avaient à Thessalonique donc en Grèce, en Thrace exactement. Et donc ils commencent à prêcher, mais les Juifs jaloux prirent quelques hommes méchants de la populace et formant une troupe agitèrent la ville et assiégeant la maison de Jason, là où ils sont logés, ils cherchaient à produire devant le peuple Paul et Silas, son compagnon de voyage. Vous voyez comment ils sont reçus. Et, ne les ayant pas trouvés, ils se cachent, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, criant, ceux qui agitent la ville qui sont venus ici, Jason les a reçus, donc ils s'en prennent à ceux aux à l'aubergiste qui a reçu Paul et son disciple, et tous ils agissent contre les décrets de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Et toujours, on retrouve la même accusation que produite par le Sanhédrin devant Pilate pour faire tomber notre Seigneur. Là, on retrouve la même accusation contre Paul qui sème la sédition. Et ils agitèrent le peuple et les magistrats de la ville qui entendirent ces paroles. Bon, etc. Ensuite, il y a des cautions. Enfin, c'est plein d'aventures. Mais parfois, il est pris. Parfois, il va recevoir la flagellation plusieurs fois. Il va même être laissé pour mort, etc., etc. On voit là Saint Paul dans les Actes des Apôtres passer à travers mille épreuves pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ. Donc vous voyez, le disciple n'est pas plus haut que son maître, et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Et ça devrait être, si nous avions vraiment un grand esprit de foi, ça devrait être un motif pour nous de réjouissance, de joie. Comme les apôtres, quand ils ont été pris au temple, fouettés, eh bien, sont tout contents, parce qu'ils ont eu, pour la première fois, ça y est, ils ont commencé à souffrir quelque chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint les console sans doute pour leur faire comprendre que ça y est, ils sont vraiment disciples d'un tel maître. Bon, évidemment, donc nous ne devons pas encore, je pense, souffert encore tous ces déboires, ces épreuves, et donc ne nous plaignons pas. Et voilà, donc je reprends l'Épître aux Hébreux. Donc Saint Paul s'adresse à des gens découragés et il leur appelle, comme il a fait tout à l'heure à Timothée, il leur rappelle le beau témoignage de tous les grands saints qui ont souffert pour la foi. Et il commence, alors je ne vais pas vous le faire, c'est toute la litanie de ces saints, de ces grands, de ces géants de la foi de l'Ancien Testament qui ont souffert. Alors il fait le catalogue, les litanies, on peut dire, de Abel, Noé, Abraham, Moïse, tous, c'est pour la foi qu'ils souffraient. C'est pour la foi que Abraham quitta Ur de sa ville, traversa le désert et alla dans la terre promise. C'est pour la foi au sauveur à venir qui serait Jésus-Christ, que, eh bien, Moïse a cru en Yahvé, qu'il a sorti son peuple d'Égypte, qu'il a traversé le désert pendant 40 ans. Voilà tout ce qu'ils ont fait pour, alors qu'ils attendaient le Messie, il est arrivé, eh bien, n'en faites pas moins. Voilà un peu l'idée de Saint Paul. Alors voilà le passage, c'est au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins. Donc, oui, et donc ils viennent faire allusion à Abel, Noé, Moïse, Abraham. Donc ils nous regardent du haut du ciel, ils nous encouragent. Allez-y, les petits chrétiens, luttez, quoi. Nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi, qui l'amène à la perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura la croix, dont il méprisa l'infamie, et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Vous voyez, lutter les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Voilà. Donc, dans les dangers, dans la lassitude, reprenez courage au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Contemplez, fixez, notamment un crucifix, qui est l'école du combat et aussi du renoncement, de l'oubli de soi, pour savoir repartir. Enfin, troisième et dernière image bien parlante employée par Saint Paul, il y en aurait d'autres, c'est celle de la course. La course dans le stade, c'est l'épître du dimanche de la Septuagésime, que vous trouvez donc facilement dans vos missels, la course. Ne savez-vous pas que dans les courses de stade, tous courent, mais un seul obtient le prix. Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, une couronne de laurier, ou la photo dans le journal et une bouteille de champagne. Nous, une impérissable. Et c'est bien ainsi que je cours, moi, non pas à l'aventure, n'importe comment, ça c'est important. C'est ainsi que je fais du pugilat, c'est du combat ça, sans frapper dans le vide. Il ne donne pas des coups au hasard. Et c'est vrai pour nous, dans le combat spirituel, de savoir se connaître soi-même et savoir ses défauts, ses habitudes de péché, et de ne pas combattre dans le vide, mais porter le fer là où ça fait mal, là où vraiment nous sommes constamment retenus dans la médiocrité. Et souvent, c'est parce qu'il y a telle fréquentation, telle habitude mondaine, superficielle, telle lassitude à prier, tel découragement devant une difficulté, et surtout le défaut dominant, je reviendrai, qui est là et qui ne se laisse pas chasser comme ça du territoire qu'il occupe depuis bien longtemps. Je meurtris mon corps, au contraire, donc c'est l'aspect ascèse, la mortification de la chair, je meurtris mon corps au contraire et le réduis en esclavage, de peur qu'après avoir servi de héros pour les autres, je ne sois moi-même disqualifié. Et ensuite, il fait toute une liste de... Il prend l'exemple de ceux qui ont couru dans le désert. Enfin, les Juifs qui, pendant 40 ans, ont été conduits par Dieu, par leur chef Moïse, dans le désert. 40 ans. Ils ont lutté pendant 40 ans. Et beaucoup ont péri. Et il va dire pourquoi. Et en nous disant pourquoi, je crois qu'il nous donne vraiment les grands dangers qu'il faut éviter, contre lesquels il faut combattre, si nous voulons progresser, mener le bon combat de la foi, et être trouvé fidèle jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Alors voilà ce qu'il dit. « Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, mes frères, mes sœurs. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Tous ont mangé le même aliment spirituel, la manne, qui leur était donnée. Tous ont bu le même breuvage spirituel, ils ont bu au rocher qui figurait le Christ. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leurs corps jonchèrent le désert. Beaucoup ont péri. Très peu, deux, Josué, fils de Noun, et Caleb, je crois, fils de Jévoné, qui sont rentrés dans la Terre Sainte, car eux n'avaient pas douté. Même Moïse est mort sur le mont Nebo avant d'entrer. Il a vu, mais il n'a pas rentré dans la terre promise. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de convoitise mauvaise, comme ils en eurent eux-mêmes. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, dont il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Oui, ici, l'idolâtrie, c'est celle du ventre. Ça va, c'est la fête, quoi. Ne forniquons pas, comme le firent certains d'entre eux, et il en tomba 23 000 en un seul jour. Et donc ici, c'est la débauche. Ne tentons pas non plus le Seigneur, là, c'est plutôt la révolte, comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme le firent certains d'entre eux, et ils périrent par l'exterminateur, l'ange exterminateur. Et le murmure, là. Le mauvais esprit, on dirait. Cela leur arrivait pour servir d'exemple et a été écrit pour notre instruction, à nous. Ainsi donc, que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber. Donc, attends, faut pas se garder la présomption. Aucune tentation ne vous est survenue qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Donc le texte est un peu long, il est bien connu, et il faut le méditer souvent. Dieu est fidèle. Saint Paul sait de quoi il parle. Lui qui s'est plaint un jour d'avoir cette épreuve, cet aiguillon dans la chair, qui le faisait tant souffrir, et qui l'humiliait, et sans doute le faisait prendre de doute quant au combat spirituel qu'il menait. « Ma grâce te suffit. » Voyez, se jeter dans les bras du bon Dieu quand ça va pas. Mais surtout, rester fidèle, comme Dieu est fidèle. Et je suis toujours surpris de voir parfois des personnes, Dieu m'en garde aussi, que celui qui est debout prenne garde de tomber, mais qui sont dans l'épreuve, ou que sais-je, alors ils vont pécher. Ils ont parfois des grands soucis, des grandes épreuves, et ils vont pécher. Comme pour chercher un... C'est humain, ils vont... enfin. Tragiquement humain. Ils vont chercher une compensation sensible, souvent. Mais, je dis, mais ne vous mettez pas Dieu à dos. C'est maintenant que vous avez besoin du bon Dieu. Alors si vous l'offensez, comment voulez-vous qu'il vous aide? Vous voyez, il y a aussi une incohérence souvent. Alors fuyez l'idolâtrie, aujourd'hui, hein, c'est l'esprit moderne, c'est l'esprit laïque. En France, c'est sûr, le relativisme, le dieu du ventre, hein, la société de consommation, elle est vraiment programmée pour vous faire chuter de ce point de vue-là. Fuyez bien sûr les slogans, tout ce qui est médias qui pourrit les intelligences. Et puis les fausses doctrines, liberté, égalité, fraternité, toute l'idéologie républicaine qui est une idole, qui fonctionne exactement comme une religion. Et je veux pas, enfin, ça serait trop long, donc je m'arrête. Donc voilà ces exemples qu'il faut méditer, parce que donc pour savoir réagir, nous sommes dans une société qui charrie quantité d'occasions, d'activités, de loisirs, qui charrie une manière d'être qui ne sont plus des mœurs chrétiennes depuis longtemps, et réagissons pour faire régner notre Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Vous voyez, nous disons chaque jour, je pense, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, On ne peut pas prier ainsi, faire cette demande chaque jour dans le Notre Père, et ne pas travailler dès maintenant à faire régner notre Père des cieux, notre Seigneur, autour de nous, en nous et autour de nous. Donc c'est dans nos familles, dans nos relations, dans notre manière de nous tenir, de réagir, de raisonner, il faut se former, il faut savoir lutter jour après jour, encore une fois, pour le Christ roi, c'est pas demain, c'est jour après jour, dès maintenant, eh bien, par la conversion des mœurs, une vie pure et sainte, eh bien, travailler donc, comme je vous dis, à faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui sera sauvé, qui obtiendra la vie éternelle, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Il l'a fait aujourd'hui. C'est pas celui qui fera, c'est celui qui fait. Et donc c'est celui qui est fidèle jour après jour à la grâce de son baptême, des sacrements, de la vie surnaturelle. Et comme le disait une fois Monseigneur de Galarita, il nous disait, il était venu à Icône, il disait, nous n'avons pas besoin de pleureuses de la tradition, nous avons besoin des champions de la tradition. C'est tout un état d'esprit de croisade et de conviction à avoir pour ne pas nous laisser gangréner par la lassitude. Bien sûr, il faut dénoncer les erreurs, la décadence des mœurs, de la société, tout ce que vous voulez, mais nous commençons déjà par vivre de la vérité et de réagir et d'avoir cette noblesse d'âme, cette fidélité chaque instant dans notre agir moral comme intellectuel, pour ne donc ni se bercer d'illusions ni baisser les bras. C'est les deux périls. Être réaliste, ne pas craindre de dénoncer la décadence, mais donc pas d'illusion, mais réagir et non pas dire c'est fichu, pour pas dire autre chose. Donc voilà quelques exemples tirés de saint Paul, mais vous pourriez prendre saint Pierre, saint Jean, tous les grands saints, les docteurs de l'Église, les fondateurs d'ordre, et puis des femmes, hein, les deux saintes Thérèse, sainte Thérèse d'Avila, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sainte Jeanne d'Arc, les Judith, les Esther, les toutes ces femmes fortes de l'Évangile, c'était pas des pleureuses de la tradition, c'était des champions de toute catégorie de la tradition. On peut résumer cet esprit combatif dans le désir de sainteté, le désir de perfection, d'avoir toujours les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ comme notre modèle. Et un modèle, c'est un exemple que l'on suit. Sinon, c'est pas un modèle. Sinon, c'est purement décoratif. Soit il est notre modèle, un modèle, un guide, un chef, on le suit. Sinon, c'est pas un exemple. C'est juste une icône, mais enfin, une icône, c'est beau, mais quelque chose qui n'est pas vraiment un modèle ou un chef ou un exemple. Voilà. Alors voilà ce que disait saint Jean de la Croix. Voilà comment parlait un saint. Il disait rien, 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 jusqu'à laisser sa peau et le reste pour le Christ. Voilà saint Jean de la Croix. Hein. Rien jusqu'à laisser sa peau et le reste pour le Christ. C'est tonique. Il disait également plutôt mourir et crever que de pécher. Alors je n'ai pas l'original espagnol, mais ça doit être c'est rendu par le frère Bruno de Jésus-Marie à Carme. Et je pense que c'est fidèle à la traduction. Plutôt mourir et crever que de pécher. Ça veut dire autre chose qu'une religion affadique, un sel affadie, qu'une religion aux vérités diminuées, embourgeoisées, libéralisées, je ne sais pas, ou accommodées à l'esprit du temps. Tout ceci est très beau, très vrai, et il faut que j'avance. Passons maintenant à la deuxième partie de mon intervention qui se tourne davantage vers ce qui est le principe, je l'ai dit, l'Esprit Saint, le principe de cet agir fort des saints, qui éclate en particulier chez les martyrs. J'ai passé là, mais je voulais vous prendre l'exemple de Saint-Pierre Mavimène. Saint-Pierre Mavimène est fêté dans l'Église au 21 février. Et le martyrologe romain dit ceci, donc c'était, je pense, l'évêque de Damas, qui est mort alors qu'il recevait la visite d'Arabes qui étaient venus le visiter alors qu'il était malade lui-même. Et qui, sans doute, étaient venus pour lui parler d'une religion qui pourrait certainement beaucoup pour lui. Et voici ce que Saint-Pierre Mavimène répondit, il était donc, je crois, évêque à Damas. « Tous ceux qui n'embrassent pas la foi catholique, enfin, quiconque n'embrasse pas la foi catholique, est damné, damnatus est, comme Mahomet, votre faux prophète. » Voilà la réponse de ce saint qui fut illico presto égorgé. Et c'est un saint de l'Église catholique. Voilà. Donc vous voyez un exemple de l'Esprit Saint, de l'Esprit de force, qui, alors qu'il était malade, il pouvait se dire, oh, bah, je suis malade, je vais laisser parler, je ne réponds pas. Non. Hop. Et puis, évidemment, il est mort martyr. Bon, je passe donc... alors, le principe de tous ces saints martyrs qu'il faut méditer, et je pense aussi que le désir du martyr n'est pas... c'est un saint désir qu'il faut avoir. Après tout, je vais parler de Saint-Pierre Mavienne parce que les disciples de Mahomet se répandent, vous savez, et qu'il n'y a plus besoin d'aller à Damas pour les trouver. Qui sait ? Bon, alors, passons donc à... Je suis emmêlé les pinceaux, excusez-moi. Page 4, voilà. Passons donc au principe de force, qui est donc l'Esprit Saint. La force de Dieu, qui est à l'œuvre chez les martyrs, comme chez tous les saints, c'est la force de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Ces esprits, vous l'avez tous reçu au baptême, et depuis, il a été affermi, confirmari, lors de la réception du sacrement de confirmation. C'est un peu de cela que je voudrais vous parler maintenant. Ce sacrement de confirmation, vous l'avez reçu des mains de l'évêque, et cette confirmation, elle vous a été donnée pourquoi ? Pour, nous dit le catéchisme, non pas seulement la sanctification du baptisé, le baptisé reçoit la grâce pour sa sanctification, mais dorénavant pour atteindre la plénitude de la vie chrétienne. C'est dans le sacrement de confirmation que vous avez reçu l'Esprit Saint pour atteindre la plénitude, l'âge adulte de la vie chrétienne. C'est cela la grâce spéciale de la confirmation, d'atteindre l'âge adulte, de ne pas rester ces moignons d'hommes, comme disait Barnanos, pour qualifier ces chrétiens très superficiels, sans profondeur, sans maturité, sans esprit d'oraison, sans vie intérieure, qui restaient éternellement des jeunes, au sens des enfants, dans l'ordre de la grâce. Pour moi, frère, dit saint Paul aux Corinthiens, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des êtres de chair, comme à des petits-enfants dans le Christ. C'est du lait que je vous ai donné à boire, non pas une nourriture solide. Vous ne pouviez encore la supporter. Mais vous ne la pouvez toujours pas davantage maintenant, car vous êtes encore charnel. Vous voyez, les petits-enfants sont charnels. Ils vivent au niveau sensible des sens. La raison ne gouverne pas encore leur passion sensible. Ils ne sont pas encore capables de recevoir la nourriture solide. Eh bien, ne restons pas des esprits, des êtres charnels, donc des immatures, tout au long de notre vie. Recevons la nourriture des forts. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin en parlant, en commentant dans son traité sur la confirmation. Si le baptême est comme une naissance spirituelle à la vie chrétienne, la confirmation est la croissance spirituelle qui amène l'homme à l'âge adulte dans la vie spirituelle. Dans le baptême, il reçoit le pouvoir de faire ce qui concerne son salut personnel, en tant qu'il vit pour lui-même. Mais dans la confirmation, il reçoit le pouvoir de faire ce qui concerne la lutte, le combat spirituel contre les ennemis de la foi. Ad pugnam spiritualem contra hostes fidei. Pugnam, a pugnandam. C'est le pugilat de saint Paul. C'est pas du tricot. Donc on le voit par l'exemple des apôtres, continue saint Thomas d'Aquin, qui avant de recevoir la plénitude du Saint-Esprit était au Cénacle persévérant dans la prière. Mais ensuite, l'ayant reçu, ils en sortirent et ne craignirent pas de confesser publiquement leur foi, même devant les ennemis de la foi chrétienne, en allant au temple et en prêchant ouvertement la foi, la seule foi qui sauve. Donc vous voyez, la lutte spirituelle ici est bien marquée, la confession de la foi, le témoignage, le martyr, s'il le faut, est bien marquée par la grâce de la confirmation, et je pense que tout le monde ici l'a reçue. Donc personne ne peut dire, sauf si vous n'avez pas reçu la confirmation, vous êtes donc sans excuse si vous ne combattez pas fortement, virilement, pour notre Seigneur. Donc l'Esprit Saint, dans le rituel du sacrement de confirmation, est donné, dit le rituel, le pontifical, à de rebours, pour fortifier. Le sacrement donne pouvoir de rendre témoignage à la foi, de combattre. Voilà ce que dit encore le catéchisme. Le confirmé, écoutez bien, c'est très militaire. Le confirmé est fait soldat du Christ, miles Christi, défenseur de l'Église et combattant de la foi. Soldat, défenseur, combattant. C'est plutôt militaire. Ce caractère belliqueux, peut-être, de la vie spirituelle, eh bien, peut être poussé, c'est très présent dans le rituel de la confirmation, jusqu'au martyr. Et il y a une comparaison entre le soldat qui combat pour l'armée, pour la cité, et le chrétien qui combat pour l'Église, le royaume des cieux. Et cette lutte spirituelle contre les ennemis de la foi peut nous conduire jusqu'à, justement, ce martyr. Le confirmé est un martyr virtuel. Il faut essayer de méditer ça. Hein? Vous toutes qui m'écoutez, eh bien, par la grâce de l'Esprit Saint reçu au baptême et affermi par la confirmation, vous avez la grâce suffisante pour user de la force, de l'énergie nécessaire pour témoigner la foi en Jésus-Christ, y compris jusqu'au bout, jusqu'au don total de votre propre vie. Oui. Donc, alors prenez justement, c'est là où je voulais parler des exemples de saint Pierre Mavimène, mais on peut prendre d'autres saints, je pense à des jeunes filles, sainte Agnès, sainte Lucie, ces grandes saintes des premiers temps, qui étaient des jeunes filles de 12, 13 ans, 15 ans peut-être, et qui ont souffert les tortures, sainte Blandine à Lyon, qui ont souffert le martyr, confirmé qu'elle l'était par l'Esprit Saint, et pas peu. Vous pouvez prendre, il y a d'autres saints que je vais noter. Par exemple, j'aime bien en ce moment Saint Jean de Brito. Saint Jean de Brito est un jésuite, je crois, qui est mort en Inde. Et c'est grâce à lui, enfin, c'est en souvenir de son martyr, que les prêtres du diocèse où il est mort portent la soutane blanche avec une ceinture rouge. Il y a des confrères de la fraternité qui sont dans ces pays-là, qui ont la ceinture rouge. Non pas parce qu'ils veulent être évêques, mais parce qu'ils sont dans un diocèse où les prêtres ont payé de leur sang l'évangile. Et Saint Jean de Brito, on lui a demandé de sacrifier aux idoles. Il a refusé. On lui a dit, écoutez, on vous demande même pas de mettre un grain d'encens devant Shiva, un éléphant, pourquoi, enfin, toutes ces idoles. On vous demande simplement on vous demande pas de dire que vous croyez, mais on vous dit pour avoir la paix avec le pouvoir politique, la cité et les prêtres, les brahmes, là. On vous demande simplement de dire un mot. Shiva. Dites Shiva. Vous en pensez ce que vous voulez, mais dites Shiva. Et vous aurez la paix. Il a dit non. Il s'est tué. Jésus-Christ, il a répondu. Et il a été, ensuite, je crois qu'il a beaucoup souffert. je vous passe le détail. Donc voilà aussi vivre. Alors, peut-être que vous n'aurez pas à sacrifier votre propre vie, bien que ce soit une grâce à demander. Hein, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Mais il est certain qu'il faut combattre jusqu'à la mort. Ça oui. Jusqu'au dernier souffle, jusqu'au bout. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ça, nous savons, nous aurons jusqu'à notre dernier souffle. On ne sait jamais prier beaucoup pour les agonisants. On ne mesure pas assez combien les agonisants peuvent être tourmentés, tentés de désespoir, tout ce que vous voulez. Alors souvent, les derniers sacrements leur donnent beaucoup de paix, ça se voit, hein, et parfois ça les même ressuscite, je l'ai vu, mais parfois on les trouve vraiment très dans l'angoisse de la mort, des affres de la mort, très agités et parfois aux limites du désespoir. Et donc moi je suis, enfin, priez beaucoup pour les agonisants, parce que je connais un cas dans une maison de retraite à l'est de Paris où un monsieur s'est suicidé, quoi. Il était en chaise roulante, il s'est précipité contre une verrière. Il passe à travers le carreau pour. Il n'était pas catholique, je crois pas. Mais ça a beaucoup traumatisé, bien sûr, les infirmières. Une personne âgée comme ça qui meurt dans ces conditions, c'est terrible, quoi. Bon, quel que soit le suicide aussi, mais là, c'était particulièrement poignant. Troisième et dernière partie en 4 minutes. Ce Saint-Esprit qui nous donne de combattre, s'il le faut, jusqu'à la mort, ça c'est sûr, eh bien, c'est celui, cet esprit de force de l'Esprit Saint, c'est l'esprit des forts, le combat des forts, c'est un peu ça le titre de ma partie. L'Esprit Saint, la vie en accord avec les inspirations chrétiennes, la confession de la foi, la pratique des mœurs de l'Évangile, des mœurs pures et saintes, le combat contre les péchés, et en particulier contre le péché dominant, tout cela nécessite une âme virile. Et pour vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, une âme virile. Accomplir jour après jour, vivre en parfait chrétien, ce n'est pas donné, ce n'est pas naturel. Je vous en reparlerai demain à travers les vertus théologales. Mais ce n'est pas donné à l'homme, c'est vraiment le fruit d'un don de Dieu, qui nécessite une grande fidélité de chaque instant. Saint Paul disait, exhortait, je crois, Timothée encore, en lui disant « Esto vir », sois un homme. Et Sainte Thérèse d'Avila disait à ses filles, au Carmel, disait « Mes filles, soyez des hommes ». Au sens, bien sûr, vous avez compris, combattez virilement. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, jeune fille de 26-27 ans lorsqu'elle va mourir, elle est dans les derniers mois de souffrance et d'agonie, et elle dit « Je mourrai les armes à la main ». Les armes à la main, c'est la prière, l'oraison, et l'amour miséricordieux, l'amour pour Jésus. Et continuer son apostolat. C'est pas dire « Ah bah ça y est, bon ben je me retire dans mon cocon, que sais-je ». Je mourrai les armes à la main. Alors le combat spirituel donc nécessite cet esprit d'effort, de combatif. La lutte contre les défauts, spécialement le défaut dominant, qui, je vous le rappelle, est en nous la cause principale des péchés, qui tient notre caractère, notre tempérament, et qu'il faut combattre jour après jour. Hein. C'est le vieil homme qu'il faut arriver à passer par la fenêtre, un jour ou l'autre. D'où donc ce combat contre le défaut dominant, l'examen de conscience, toutes ces choses que vous connaissez, les résolutions à prendre ou à reprendre, hein. Une résolution, c'est formidable comme on a propension à laisser tomber les résolutions. C'est qu'elles n'étaient pas assez bien prises ou assez fermement prises. Il faut faire attention à beaucoup de choses. Et pour ne pas vous ensevelir sous tout ce qu'il faut faire attention à l'illusion, au découragement, à tout ce que vous voulez, je voudrais juste, comme dernier mot, vous dire ceci. Le combat chrétien, il est enthousiasmant. Et ce combat, il ne faut pas le mener dans la crainte ou la timidité, la pusillanimité. Ce sera vraiment, pour moi, quasiment le mot de la fin. Ça veut dire que la crainte de déplaire à Dieu, oui, ça vous pouvez l'avoir. La crainte de perdre la couronne, de courir en vain, oui. De vivre dans l'illusion, oui. Mais la crainte de votre ombre, avoir peur, cette propension à l'auto-dénigrement, même dans la tradition, que sais-je, cette crainte de faire le bien. On pêche par omission aussi. Tout cela est mortel, hein, pour tout cela affadit notre zèle à souffrir pour la justice. C'est ce que disait d'ailleurs saint Pierre, c'est l'épître du cinquième dimanche après la Pentecôte. Il disait ceci, « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, je fais rien de mal et j'ai des épreuves, après tout, c'est pas juste. Eh bien, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Heureux êtes-vous. N'ayez d'eux, des ennemis de l'Église, des ennemis de votre âme, de ceux qui vous font du mal, des méchants, n'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite dans le Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Persévérez dans le bien. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, et répondez sans vous lasser au mal par le bien, et non pas au mal par le mal. Car c'est là, c'est la fin de tout. Vous entêtez dans le bien. Et ce sera là ma conclusion, la vraie. Si nous ne sommes pas toujours très courageux, que nous sommes pris par le doute, les complexes, que sais-je, les scrupules, sachons avoir la tête dure. Ce sera vraiment le mot de la fin. La tête dure. Nous entêter dans le bien. Soyons de doux entêtés. C'est un reproche qu'on faisait à Mgr Lefebvre. Il voyait que le sacerdoce catholique s'écroulait. Ben moi, je suis un évêque. Je voudrais rendre des comptes de mon épiscopat. Je ne veux pas collaborer à la destruction de l'Église. Je fais des séminaires. C'est simple. Un bon père de famille, il fait ça pour l'héritage de ses enfants. Ben, je fais de bons prêtres. Et en faisant ça, enfin, j'espère qu'ils sont bons. Mais je sais que je suis dans la voie du bon Dieu. Et je n'en démords pas. On m'a appris A, on voudrait maintenant me dire blanc, maintenant on me dit que la vérité c'est noir. Non. Il n'y a pas de raison de changer. La tradition ne change pas. Dieu ne change pas. Les condamnations d'hier sont toujours valables aujourd'hui. Donc, eh bien, je continue. On lui reprochait d'être un entêté. Mais c'est un saint entêtement. Dur à dire. Et c'est cela aussi la grâce de l'Esprit-Saint. Je vous ai parlé. Oui, je dis bien, c'est cela aussi la grâce de l'Esprit-Saint, d'avoir le front buté, la tête dure. Je vous ai parlé de la confirmation. Le sacrement de confirmation, où avez-vous reçu l'onction du Saint-Crème par l'évêque? Vous l'avez reçu où? Sur le front. Sur le front, avec ces paroles, je te marque du signe de la croix et je te confirme avec le crème du salut au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pourquoi sur le front, après tout? La réponse nous est donnée par saint Thomas d'Aquin, qui dit ceci. C'est dans son commentaire, enfin c'est dans le livre des sentences. Bon. La force est signifiée par le front. La confirmation est donnée le Saint-Esprit nous est donné dans la confirmation pour nous fortifier. Or, la force est signifiée par le front. Donc, l'onction est faite sur le front. Pourquoi est-ce que la force est-elle signifiée par le front? Réponse. Parce que Ézéchiel dit, voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Il parle des ennemis de Yahvé, de Dieu. Ayez, le confirmé se bat jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et il a une tête plus dure que celle des méchants. Voilà la grande leçon, je pense, à tirer de cette instruction. Donc soyez des têtes, des fortes têtes, des têtes de granit, si vous êtes des Bretons, des bons granits bretons, des têtes de bois, si vous êtes franc-comtois, parce que chez nous, on dit franc-comtois, tête de bois, donc il n'y a pas que les Bretons qui sont entêtés, mais c'est dans cet esprit-là qu'il faut travailler. Ne soyez pas des têtes en l'air, donc des gens qui vivent dans l'illusion, ni des têtes de lard, parce que ça, c'est des gens qui sont méchants. Les têtes de lard, rochons, c'est pas ça. Ni têtes de lard, ni têtes dans l'air, mais têtes de bois ou têtes de granit. Enfin, des saints entêtés dans le bien et dans la voie de Dieu. Et c'est comme ça, je pense, qu'on aura un peu d'abord un esprit de vainqueur, qu'on n'aura plus peur de notre ombre, que sais-je, et que nous pourrons faire avancer où que nous soyons, eh bien, le royaume de Dieu autour de nous. D'accord ? Voilà. Alors nous allons maintenant chanter les complis. Nous rendons directement à la chapelle.